le mot Network States. Donc là, on pourrait imaginer un état dans le cloud où des gens soient de cet état-là et que ce soit un état tracé par une blockchain, un truc comme ça. Ouais, c'est assez intéressant. Ça fait peur, mais c'est cool.
Bonjour à toutes et à tous, c'est chaque après-midi la même joie qui m'inonde, à moins que ce ne soit juste les premières fuites urinaires de l'ombre pose, de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Ne visualisez pas, merci. Deux heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts, et aujourd'hui, un concept que Quentin a découvert sur le yacht de son tonton milliardaire l'été dernier. Percé par le clapotis des vagues, il finissait un troisième mojito en faisant des petits signes mi-amicaux, mi-dédaigneux aux plaisanciers qui, sur de petites embarcations type Zodiac ou autres bateaux de pauvres, lui faisaient coucou en hurlant « C'est Quentin lui, Zoom Zoom Zen !» Oui, malgré son succès et le chiffre d'affaires florissant de la Lui Incorporated, puisque je rappelle que Quentin aurait facturé plus cher sa prestation au Grand Prix France Moto que Laurent Lafitte au Festival de Cannes, Quentin garde une forme de tendresse pour tous ces gens qui ne sont rien et qui n'ont pas embarqué comme lui sur le grand train du luxe. Justement, voici son tonton, Spencer lui. Il porte beau dans son costume en lin l'Europiana. Derrière ses lunettes Jacques-Marie Mage à trois briques, on devine le regard glacé d'un génie des affaires. Il est d'ailleurs en discussion téléphonique avec son copain Elon Musk, sa petite couille du cap, comme il le surnomme. Quentin tend l'oreille. Est-ce qu'il entend le subjugue ? Apparemment, Musk propose à son oncle de devenir ministre dans l'état réseau qu'il est en train de créer. Un état réseau ? Mais qu'est-ce que c'est ? Vite, Quentin pose son mojito et écarte la jeune top modèle bulgare qui lui appliquait de la crème solaire avec ses tétons pour taper sur Google Network State. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Et comme vous ne croyez quand même pas que je vais vous dire là, comme ça, tout de suite, de quoi il s'agit alors qu'on a une heure à faire sur le sujet, je vous propose plutôt de mettre une fois de plus le cap sur le gai savoir et d'écouter Zoom Zoom Zen. Avec des effets spéciaux.
Titanic, quoi.
Oh bah, le Titanic n'a pas eu le temps d'appuyer sur la corde de brume, hein, c'était déjà foutu, oui.
Il n'est pas si gros, celui de mon oncle.
Oh,
fais pas
si, ce bruit-là. Je l'imagine comme ça. Bonjour, Nastasia Adjadji. Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Nastasia. Vous êtes journaliste, chroniqueuse, essayiste, spécialiste de l'économie et du monde numérique. On peut vous lire dans Le Monde, Libération ou encore Society. En 2023, vous avez publié Nos cryptos, comment Bitcoin a envoûté la planète aux éditions Divergence, et vous préparez en ce moment un nouveau livre sur le technofascisme dans lequel il sera question de ces network states dont on va parler pendant une heure. Juste le temps de vous présenter ceux qui ne se reconnaissent eux que dans un seul pays et pas n'importe lequel, la France, du général de Gaulle. Chaque matin, le rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, leur joue la Marseillaise à la flûte à bec. Je peux vous dire que ça les cadre, les mioches. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Ah, elle est juste. Pour
très
une
belle
fois.
Prestation.
Oui, pour une fois,
ça s'améliore. À chaque fois, il gagne en justesse à la flûte à bec. À vos côtés, Nastasia, elle n'aime pas beaucoup que quelqu'un d'autre qu'elle ose parler réseaux sociaux dans cette émission. C'est un peu comme si on invitait quelqu'un pour parler moto alors qu'on a déjà Quentin. Mais voilà.
On l'a déjà fait, non ?
Dans cette première partie de l'émission, Manon, vous n'êtes pas journaliste réseaux sociaux, vous êtes journaliste tout court. Et vous nous brossez chaque après-midi le portrait de l'autre personne à suivre.
Oui, aujourd'hui, l'un des plus gros milliardaires de la Silicon Valley, mais aussi l'un des plus conservateurs, libertariens et trumpistes. Ça fait beaucoup, mais son influence est assez considérable aujourd'hui.
Face à vous, Nastasia, il a beau lire et relire la définition des network states sur Wikipédia, il n'a rien compris. Le monde moderne, globalement, le dépasse. Il fait partie des dernières personnes avec ma grand-mère à payer ses impôts en liquide. Alors, l'idée qu'un État puisse s'affranchir d'un cadre territorial pour exister de manière dématérialisée dans le World Wide Web, voilà qui laisse pantois celui qui regrette le temps jadis, quand tout était plus simple, plus clair.
Oh non.
Quentin, chaque après-midi, vous faites fi du profond dégoût que vous inspire ce siècle, comme Michel, pour partir dans la rue.
Je hais Sardou.
Vous le dites officiellement. C'est la première fois que vous le dites officiellement, micro France Inter. Et
ça
veut dire que Michel ne pourra jamais venir nous voir, par exemple.
Vous l'adorez.
On l'aurait peut-être pas invité. Bon, alors bref.
Vaut mieux qu'il se dépêche.
Vous faites réagir les gens à notre thème du jour. Quentin, vous allez trop loin.
Oui, ça va.
On respecte la santé des gens. Il faut partager, n'est-ce pas, leurs idées. Alors, les états réseaux, ils voient de quoi on parle, les gens dans la rue.
Surtout, ça intéresse les gens qui tentent de se projeter dans un monde pareil. On va imaginer un influenceur gourou qui collecte de quoi acheter par exemple une terre pour en faire son état. Mmh. Un état où tout est neuf et tout est sauvage. Je vous parle de ces network states dans la prochaine demi-heure dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Quel ringard.
Je préfère citer Goldman que Sardou. Pardon.
Vous avez raison. Vers 16h30, non, les milliardaires de la tech n'ont pas le monopole des idées à la con comme nous le découvrirons dans un Zoom Zoom test consacré aux états les plus fantoches de l'histoire récente du fascinant royaume d'Asgardia à la non moins fascinante république de la saucisse de Morteau, créée par notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière. Juste avant 17h, c'est justement un citoyen d'honneur de cette République qui nous rendra visite, Harold Barbet, dont l'analyse géopolitique est toujours un grand moment. Passez 17h, surtout restez avec nous, vous saurez enfin ce qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès, une exclue Zoom Zoom Zen qui va faire du bruit. Mais d'abord, Nastassia Hajjadji, ces network states, ces états réseaux, est-ce que c'est le stade ultime finalement qu'atteindraient les réseaux sociaux ?
En quelque sorte, oui, absolument. Parce qu'en fait, l'une des idées de base derrière les idéologues de la Silicon Valley qui ont créé les réseaux sociaux et qui veulent désormais faire sécession de l'État pour créer de nouveaux États, notamment en ligne, eh bien, c'est que ces réseaux sociaux, ils sont déjà quantitativement plus peuplés que certains États. Si on considère le nombre de personnes qui est connectée chaque jour sur Facebook, c'est plus de 2 milliards, il me semble. Ben voilà. Donc c'est une population qui est numériquement, quantitativement, parfois égale, voire supérieure à celle d'un État-nation. Donc ces réseaux sociaux, en fait, ils mobilisent des gens de façon transnationale, qui partagent pour certains et certaines des idées. Et du coup, à partir de cette base-là, d'individus connectés entre eux, on pourrait effectivement réinventer les bases d'une nation. D'abord en ligne, et pourquoi pas ensuite sur Terre,
physiquement.
Ou dans les mers ou dans l'espace.
Pourquoi avoir choisi d'appeler votre État République de la saucisse de Morteau alors qu'il s'agit clairement d'une dictature ? Demandera un jour à 8h30 Léa Salamé à Cyril Lacarrière, autoproclamé roi de la saucisse. Parce que j'aime faire des blagues, répondra taquin, celui qui aura envoyé quand même au goulag plus de 3 millions de véganes, devenus indésirables dans sa République.
Oui.
C'est la base.
Voilà, rien à ajouter, tout est vrai, continuez.
Bonjour, je voulais juste vous dire bonjour Cyril.
Bonjour Monsieur Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Racontez-nous, vous qui avez des velléités de sécession, ces network sites, d'où ça sort ?
Le laquais qui réclame un fief pour Elon Musk. Voilà comment Charlie Hebdo qualifie celui à qui on doit notre sujet du jour. Son nom, Balaji Srinivasan, un Américain d'origine indienne, tout acquis à la cause des milliardaires, notamment ceux de la tech, et notamment Elon Musk. On lui doit le livre de Network State, How to Start a New Country, sorti le 4 juillet 2022. Il y raconte sa vision du monde assez simple, finalement, comment l'État réseau peut remplacer l'État nation. Et quand je dis que c'est simple, c'est pour l'auteur, en fait, accessible à n'importe qui. Cet État réseau se créerait en rassemblant une communauté numérique disséminée dans le monde entier et connectée par une cause commune. Cet État réseau, en fait, c'est une manière de s'affranchir des frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui. On ne pense ne serait plus un pays selon son territoire, mais selon ce qui rassemble en termes d'idées ou de valeurs. Pierre Courade deviendrait citoyen du Vatican, Mathieu du Panama pour protéger ses lingots d'or, Manon une citoyenne du Wokistan et Quentin de la Gaule.
Okay. Alors, qu'est-ce qui lui vaut ce surnom de laquais ?
Eh bien, c'est parce qu'il veut appliquer ce principe au monde réel. Le mois dernier, Srinivasan a proposé qu'on donne à Elon Musk le contrôle d'une bande de terre autour de Starbase, c'est le QG de l'homme le plus riche du monde. Charge ensuite à Musk d'établir toutes les réglementations qu'il souhaite. Fin de citation. Alors, à quoi ça servirait vraiment ces états réseaux ? Est-ce que ce n'est pas toujours plus de mégalomanie pour ces milliardaires qui ne savent plus comment agrandir leur pouvoir ? Qu'est-ce qu'on y gagnerait ? Nous ? Qui dirigerait ? Je vous annonce en tout cas la création de l'État de Côte-de-Bœuf. Mathuré, je préfère que
C'était ça votre projet secret. Merci beaucoup Cyril. Nastassia Hajjadji, quelle est l'idée de cette network stakes au fond ? C'est sortir de l'État traditionnel ou créer carrément un nouvel État ?
Je pense qu'il y a l'une des idées de base pour véritablement comprendre cette intention, c'est l'idée de faire sécession des structures de la société telles qu'on les partage collectivement et qui sont finalement une orchestration d'intérêts divergents, un peu aléatoires. En société, on n'est pas forcément qu'avec des gens qui pensent comme nous. On doit pour autant s'accorder. Et puis par ailleurs, en société, il y a des institutions qui orchestrent ça. Ces gens-là, dotés du capital considérable qu'ils détiennent, puisque parmi ces gens qui pensent le network state, il y a parmi les personnes les plus riches du monde, donc vous l'avez dit, Elon Musk, mais aussi Peter Thiel, dont vous allez parler. Balaji Srinivasan est aussi un milliardaire de la tech. Donc voilà, un chapelet d'individus qui, mis côte à côte, ont une force de frappe financière considérable. Et ces gens-là ont aussi aujourd'hui un pouvoir politique, en tout cas l'accès au pouvoir politique via Donald Trump, qui est quand même un précédent dans l'histoire des États-Unis et avec un impact sur le monde entier. Donc beaucoup de capital, beaucoup de pouvoir et puis une idéologie quand même bercée de plusieurs creusets. Je dirais qu'il y a un premier creuset qui est ce côté cybernétique, cyberpunk nourri de science-fiction où on va véritablement vouloir trouver de nouveaux territoires et s'y établir. La science-fiction parle beaucoup d'espace, mais il y a aussi les océans et puis donc la Terre. Et puis ensuite un creuset libertarien qui est là nourri d'une détestation congénitale historique de l'État en tant que structure centralisatrice. État dépeint comme oppressif unilatéralement. L'impôt étant vécu comme une spoliation. Il y a une haine de la bureaucratie qu'on voit s'exprimer moment à travers le Doge très très forte.
Réel, oui.
Et donc voilà, l'État c'est le Léviathan spoliateur, et donc c'est vraiment quelque chose d'idéologique, de libertarien. Donc en gros, ces deux creusets forment le cyber-libertarianisme, hein, qui est une des manières de qualifier l'idéologie de ces gens-là. Et bien ce cyber-libertarianisme, doté de son argent et de son pouvoir, veut faire sécession véritablement. Il s'agit d'inventer de nouvelles manières de faire société en dehors de la société, avec des gens qui se ressemblent et qui partagent des idées et qui par ailleurs ont une vision de la politique qui est extrêmement autoritaire, antidémocratique et très...
Donc que des milliardaires.
Oui, il faut être riche pour prospérer dans ce cadre de vie.
Bah, le film Elysium, hein, qui est sorti dans les années 2010, raconte ça. C'est des milliardaires qui font sécession dans l'espace parce que la Terre brûle. Concrètement, le Network State, c'est une des conceptualisations de ça, véritablement.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Si vous ne croyez plus en l'État, inventez le vôtre. Zoom cet après-midi sur les Network States, les États réseaux. Avec vous, Nastasia Adjadji, spécialiste du numérique. On disait ces États réseaux, ils ne sont pas seulement virtuels. Il y a cette idée aussi d'investir des territoires bel et bien physiques. L'exemple peut-être le plus spectaculaire, c'est le territoire de Prospera au Honduras. De quoi s'agit-il ?
Prospera, c'est effectivement une des mises en œuvre les plus abouties, bien qu'en ce moment en péril, du Network State. Et c'est donc une enclave libertarienne qui est située sur une presqu'île au Honduras. Presqu'île qui a été donc privatisée, hein, dont les terres ont été rachetées par une poignée de milliardaires financés eux-mêmes par les investisseurs dont on parlait tout à l'heure, hein, Thiel, Srinivasan, Andreessen, des pontes donc de la Silicon Valley. Et ils ont établi sur cette petite enclave leur rêve libertarien d'autonomie. Donc c'est un espace où on peut venir entreprendre de manière totalement libre. Il y a par exemple des gens qui ont établi une micro-clinique dédiée aux thérapies géniques, hein, chose qui est parfaitement interdite dans tous les pays, ou alors strictement encadrée dans le cadre de la recherche. Et bien là-bas, par exemple, Brian Johnson, le milliardaire très connu pour pouvoir repousser sa mort, est allé se faire injecter une thérapie génique, chose qu'il n'aurait pas pu faire par exemple aux États-Unis.
Oui, mais ça existe aujourd'hui, ce territoire ?
Oui, ça existe.
Il est très intéressé, hein, pour une petite thérapie génique. Il va signer tout de suite. Quentin ?
Qui a vendu cette terre-là ?
Eh bien, le gouvernement hondurien. Parce qu'en fait, comme souvent dans le passage depuis le numérique jusqu'au territorial, ces gens, les investisseurs qui sont derrière, vont profiter de petites zones grises réglementaires et économiques.
C'est un paradis fiscal ?
C'est une zone économique spéciale. Okay. Ils se sont implantés à la faveur d'une loi qui a été votée par le gouvernement hondurien en 2013, qui a voulu créer à cet endroit une zone économique spéciale, une zone de libre marché avec très peu de taxation. Et donc, ce qui se passe avec Prospera, et c'est là que ça en fait un cas très emblématique de la friction entre ces network states, ces tentatives de sécession capitaliste et le monde des États-nations traditionnels, c'est qu'entre-temps, le gouvernement a changé. La loi sur ces zones économiques spéciales est déclarée inconstitutionnelle. Prospera est menacée dans son existence. Ouais. Que font les investisseurs ? Ils déclarent que c'est contraire à leurs intérêts économiques. Par ailleurs, ils avaient déjà des frictions en plus avec les locaux, hein, les Honduriens. Ils déclarent que c'est un danger pour leur investissement et leurs intérêts. Et donc, ils vont devant un tribunal d'arbitrage international. Donc là, très ironique, puisqu'ils s'en réfèrent à une juridiction supranationale.
Qui critique.
Voilà.
Qui critique à la base.
Voilà. Et donc, ils réclament au gouvernement hondurien le tiers de son PIB. Donc, ils menacent de mettre à genoux financièrement
un
petit État, l'un des plus pauvres d'Amérique centrale, au nom d'une utopie sécessionniste, capitaliste, hyper-capitaliste, d'une micro-élite extrêmement riche et par ailleurs qui vient des États-Unis, enfin pour partie. Donc voilà, c'est vraiment... c'est à la fois un paradoxe, Prospera, c'est à la fois l'une des mises en œuvre les plus abouties, mais elle pourrait, cette mise en œuvre, quand il y aura effectivement donc jugement auprès de ce tribunal d'arbitrage, qui, je le rappelle, est un tribunal spécial, une juridiction où les entreprises peuvent attaquer les États. C'est fait pour ça.
Mais du coup, il n'y a pas de président, il n'y a pas de service public. Il y a quoi dans ce...
Il y a un CEO.
Un CEO, évidemment.
Selon la règle de ces enclaves qui sont donc régies comme des entreprises. En fait, le Network State repose sur l'idée que une société... un groupement d'individus peut mieux être administré par une entreprise que par un processus démocratique, un gouvernement, etc. Donc en fait, il y a un board, comme dans une entreprise, il y a un CEO, il y a 9 administrateurs à Prospera, et les services publics sont privatisés. Ouais, c'est-à-dire que vous avez une école privée, une clinique privée,
privé.
Et l'impensé majeur du projet reste quand même dans cet océan de privatisation supposément plus efficace, qui ramasse les poubelles, qui achemine la nourriture, qui s'occupe du travail domestique.
Là, comment ils font à Prospera ? Là, ils le savent, concrètement.
Il y a une délégation et ils emploient des locaux. Donc, en fait, la question du travail demeure, au sens marxiste, véritablement, demeure un impensé, puisque sur des fonctions qui sont basiques, véritablement, qui ramasse mes poubelles, voilà, qui va nettoyer mon hôpital, qui va assurer ce genre de choses, qui sont les pompiers, eh bien, vous avez là un des écueils majeurs, parce que souvent, la privatisation seule ne fonctionne pas. Donc, il reste quand même des liens de subordination, souvent quand même avec des pays et des citoyens où ils s'installent.
C'est quand même un peu, sur le fond, l'antithèse des sociétés anarchistes, des mouvements hippies qui ont créé des sociétés autonomes, comme en Inde, à Auroville. C'est l'exact inverse.
Absolument. Bah, j'ai écouté avec intérêt votre émission sur le zapatisme. Puisque c'est vrai que la question de l'autonomie...
N'hésitez pas là, Mathieu.
Oui, je me dis, c'est quoi cette émission ? Je ne l'ai pas écoutée, moi. Enfin, apparemment, elle était bien.
Non, mais c'est très intéressant, parce que la question de l'autonomie est même... c'est vraiment un idéal politique aussi que l'on retrouve beaucoup dans la gauche radicale. Comment faire sans l'État ? Comment faire en dehors de l'État, sauf qu'en fait, aujourd'hui, finalement, cette utopie-là, elle a été aussi beaucoup capturée par ces oligarques de la tech et qui en proposent une version qui est véritablement l'antithèse, vous le dites, une version libertarienne, antidémocratique, élitiste.
Et qui font partie de la droite radicale.
Oui, absolument. Donc c'est pour répondre, c'est l'antithèse. Après, Auroreville, j'ai un peu regardé parce que je connais moins bien, mais c'est statutairement un peu différent quand même.
Lui, en tout cas, il n'aime ni les anarchistes ni les hippies. Il se définit comme un entrepreneur. Il a failli d'ailleurs être le Elon Musk français. Hélas, sa société Space Cigalou n'a pas connu le même envol que SpaceX. En cause, la fiabilité de ses TAS connectés Lou Cigalou, dont la plupart ont explosé en phase de test.
C'était une belle tasse.
Un mug XXL, là, très beau son. Depuis, il se concentre sur la partie de sa carrière qui marche, le micro-trottoir.
Oui, c'est vrai, je suis dans le 13e arrondissement de Paris. À deux pas de la place d'Italie, il y a le Digital Village que j'avais déjà repéré. Je prends un café, je fais connaissance et je discute.
Ben, bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Je m'appelle Tristan et toi ?
Quentin,
enchanté Quentin.
Enchanté, qu'est-ce que vous faites dans la vie vous ?
Eh bien, je suis entrepreneur.
Salut à toi jeune entrepreneur. Tu souhaites investir dans une tasse pour encore plus que ressentir la Provence, la boire ? Viens avec moi. Non, est-ce que Tristan connaît...
Le mot Network States.
Est-ce qu'il y aura...
C'est vachement intéressant comme concept. Là, on pourrait imaginer un état dans le cloud où des gens soient de cet état-là et que ce soit un état tracé par une blockchain, un truc comme ça. Ouais, c'est assez intéressant. Ça fait peur, mais c'est cool.
Je sens que l'entrepreneur se projette un peu.
On pourrait se dire qu'en fait, des influenceurs qui développent une communauté autour d'un branding de quelque chose, pourraient se dire, venez les gars, mettez tous 10 balles, on achète un terrain, et c'est mon terrain de moi, monsieur YouTuber, et on pourra y faire un festival, un de ces quatre, je sais pas. Après, si c'est régi par des lois et que ça fait voisin-voisin avec d'autres États, c'est des questions géopolitiques intéressantes.
Puis la frontière avec le gourou... avec Raël, par exemple.
Bah là, ça dit qu'il faut, il faut quand même valider ça par l'ONU, parce que c'est vrai que
tous les pays ne font pas partie de l'ONU.
Ouais. Ouais.
Bon, on verra.
On verra, mais très bien, Quentin, je te remercie du coup, parce que ça a ouvert un peu ma journée sur des pensées autres.
Si je peux ouvrir les journées sur des pensées autres, moi je le fais. Espérance travaille dans ce cybercafé, elle est graphiste, elle sort prendre l'air, alors je lui fais lire le mot du jour.
Network State. Ça m'inspire un truc chiant.
C'est vrai, c'est un peu chiant, mais on discute quand même.
Mais
c'est vrai, sur le papier comme ça, on discute de cette communauté en ligne qui prendrait la forme d'un État. Je lui explique et tout de suite, elle pense à Elon Musk.
Bah oui, bah du coup, ça le fait passer de chef d'entreprise à politique, quoi. Politique d'un pays et donc rentrer sur la scène politique internationale aussi.
Il y est déjà.
Oui, il est déjà de manière plutôt indirecte, parce que c'est pas un chef d'État. Maintenant, c'est sûr que s'il crée un État, il risque d'être chef d'État. Et là, ça peut devenir un peu inquiétant. Mais
comment il appellerait son pays ?
Peut-être un peu comme il a appelé ses enfants. Non, un peu bizarre.
Ou X, tout simplement ?
Ou X, oui.
Il y aurait des naissances sous X.
C'est marrant, ça.
Vous n'avez pas du tout meublé aujourd'hui, j'ai l'impression, ce micro-trottoir, Quentin.
Qui dit nouveau pays, dit nouveau drapeau. Alors, bonne nouvelle pour elle qui est graphiste, peut-être.
Mais je veux bien. Je veux bien proposer mes services. Ouais. Donc, ce serait marrant de se poser la question comment faire un drapeau pour un pays naissant et qui, puis est né d'Internet. De sentir ou de savoir ce que les couleurs peuvent évoquer comme grande valeur, s'il y a une devise éventuellement. et faire mon drapeau à partir de ça.
Et on se souvient d'Orelsan qui, pour son dernier album Civilisation, avait inventé un drapeau vert, bleu, rouge et noir. Ma dernière rencontre à la vingtaine. Cheveux bruns, sweat vert, il a une tête de griffon d'or. Quel est son prénom?
Philippe.
Qu'est-ce que vous faites, Philippe, dans la vie?
Je suis en deuxième année de doctorat en informatique.
Ah, ouais.
Voilà.
Ça va m'intéresser. Je lui fais découvrir...
Network States. C'est vrai que j'ai pas beaucoup entendu ça. Des états qui sont sur les réseaux. Des états en réseau. Non, ça marque un passage d'internation vers un état réseau. Non, mais ça c'est... Bon, non. C'est comme Meta qui... ils ont pas le monopole d'Internet. Alors ils se sont dit, on va créer un espace virtuel, numérique. Là, tous leurs trucs qu'ils ont fait avec la réalité augmentée. On va tous mettre des grosses lunettes sur les yeux, là. Et alors, pour pouvoir avoir un espace, donc un site web, il va falloir payer à Meta pour faire un business que tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, en fait, ça prend une dimension tellement dingue, ces histoires. Donc un état... Non, c'est... Enfin...
Mais il sourit, mais essayons quand même de se projeter.
D'accord, donc on imagine, on a Amazon qui achète la Corse.
Oh, t'as été chaud.
T'aurais une sorte de citoyenneté bizarre, enfin la citoyenneté du coup ce serait juste l'actionnariat. Ok, il pourrait y avoir de l'influence diplomatique. Moi le parallèle le plus proche que je vois c'est genre le Vatican, où c'est un état juste pour dire que c'est un état, et il a un poids diplomatique dans le sens où il a un siège à l'ONU, mais alors imaginez qu'Amazon ait un siège à l'ONU.
Ben oui, mais c'est ce jeu-là que nous promettent aussi les Network States, mais Philippe, doctorant en informatique, n'y croit vraiment pas.
Pour moi, c'est vraiment juste un gros, gros délire. C'est une sorte de donjon et dragon futuriste à grande échelle avec énormément d'argent. Enfin, je sais pas. C'est comme les trucs des NFT, c'était un peu risible, quoi. Et tu les vois, ils sont à fond. Et puis, tu regardes, tu rigoles. Et puis après, la hype, elle passe. Et puis, c'est fini, quoi. C'est une sorte de gros paix dans le vent. Ça disparaît.
Un paix dans le vent qui disparaît. Voilà comment je vais conclure ce micro-trottoir. Complètement à la rue. Peut-être un peu poussif, mais elle l'a questionné cette idée des network states et si l'avenir politique appartenait à celles et ceux qui se réveillent tôt sur les réseaux.
Nastasia Adjadji, qu'est-ce que vous pensez de cette dernière réaction de Philippe? Il a un coup de retard ou il est plutôt lucide? Ces network states, on va les voir de notre vivant se concrétiser ou bien ça reste quand même utopie?
J'ai trouvé très intéressante sa réaction. Déjà, il parle de jeux de rôle grandeur nature. Il faut savoir que tous ces gens sont férus de jeux de rôle. Alors ça, c'est pour l'anecdote, mais
ils
pratiquent le LARPing, donc la mise en scène, alors médiévale et ou futuriste. Je suis partagée dans... En fait, il y a une partie de moi-même qui a envie d'être d'accord avec lui. Sous-entendu, c'est une utopie qui a peu de chances de se réaliser. Mais on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a des embryons de Network State. On parlait de Prospera. Je peux citer aussi un autre embryon qui a toutes les chances de devenir peut-être un petit enfant. C'est Praxis, qui est un projet de start-up fondé en 2019, qui ambitionne, après avoir voulu bâtir sa cité-État, un peu comme la cité des elfes dans Le Seigneur des Anneaux, sur les rives de la Méditerranée. Ils veulent maintenant se mettre au Groenland pour profiter de l'appel d'air de Donald Trump. Voilà. Donc tous ces gens-là, finalement, que moi-même, j'ai pu un temps regarder un peu comme des doudingues ou en tout cas des utopistes technolibertariens. Finalement, aujourd'hui, quand on observe, encore une fois, l'argent dont ils disposent et le pouvoir, en tout cas l'accès au pouvoir, on peut légitimement considérer que le Network State a peut-être un destin à la Bitcoin, pourquoi pas, à savoir devenir une utopie qui se matérialise dans le réel, en dépit de sa nature vaporeuse, quand même.
C'est marrant, la comparaison aussi, à la fois avec le Vatican, mais aussi avec cette approbation de l'ONU, dans l'idée qu'un Musk fonde son état X, comme on l'a projeté tout à l'heure. Comment réagirait l'ONU?
Alors, difficile de savoir comment réagirait l'ONU.
Sur Prospera,
rirait certainement.
Ils ont fait quoi?
Je suis pas sûre que l'ONU ait même connaissance de Prospera, parce qu'en fait, Prospera est une entité au sein d'une zone économique spéciale qui elle-même est rattachée à un État. Donc en fait, toutes ces calquer le raisonnement de l'État traditionnel sur ces initiatives qui sont même au sein de leur gouvernance de nature assez diverse. Hein. Vous avez celui qui veut faire une zone économique spéciale plus avec des habitants versus celui qui veut aller au milieu de l'océan, comme c'est le cas avec le seasteading, qui est une autre passion des milliardaires de la tech. Donc c'est planter sa tente au milieu des zones non territoriales, en gros. Vous avez ceux qui veulent aller dans l'espace. Donc en fait, ces projets sont de nature diverse. Pour le moment, aucun très clairement, n'est un État et ne sera reconnu comme tel, c'est certain. En revanche, ce qu'ils peuvent faire chemin faisant, c'est contribuer à la fracturation de l'intérieur des États-nations, comme ils le font au Honduras en leur réclamant le tiers du PIB, comme ça se passe aux États-Unis, où Musk a sa ville-État. Starbase. Et ça, c'est un processus de fragmentation de l'intérieur qu'a décrit notamment l'historien Quinn Slobodian dans son essai sur le capitalisme de l'apocalypse, dont parle également Grégoire Chamaillou dans La société ingouvernable, qui analyse, sans l'appliquer au network state, mais ces mécaniques de comment on peut fracturer de l'intérieur véritablement les structures démocratiques. Et je pense que si ce n'est pas un jour un vrai État, ce sera, ils auront peut-être abîmer les vrais états au passage.
Avec des micro-états.
Mais comment on devient citoyen de ces network states? Est-ce qu'on peut même
en
devenir citoyen? Oui, voilà, c'est ça. Il faut avoir $1 milliard sur son compte, en fait.
Non, pas forcément.
Ou visa, être de la famille de ces milliardaires.
Un visa à Praxis, c'est mise de départ 5 000, mais ils veulent dans leurs citoyens que des VC et des gens qui ont levé des millions.
D'accord.
Donc, en fait, il y a aussi cette hiérarchie sociale qui est assez assumée dans le network state. C'est vraiment pas pour John Doe. Moi, à la rigueur, je pourrais peut-être un jour m'offrir un visa de Praxis, mais je ne pourrais jamais prétendre au titre de citoyenne parce que je ne suis pas VC et que je ne suis pas très riche. Voilà, donc
il faut rappeler ce qu'est VC, peut-être, pour
Nous. Venture capitaliste, capital risqueur. Ce sont les investisseurs qui font tourner l'industrie de la tech en investissant des milliards de dollars de manière assez large sur le marché des startups, de façon à ce qu'une licorne émerge. Et cette licorne va leur apporter un retour sur investissement tel que... Eh bien, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Quentin prend des notes.
Quentin prend des notes pour devenir VC.
France Inter. Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
Ici, vous le savez, on n'a pas attendu une émission sur les network states pour s'intéresser aux projets de sociétés qui élargissent le champ des possibles. Dans un écrin de verdure aux portes de Paris, on connaît déjà la micro-république des Catogans de Gaïa. Ghislain Fontana, notre réalisateur des Croissants, a fondé cette oasis anticapitaliste le jour où il a reçu une goutte de sueur de Manu Chao en concert surprise au bar associatif La Pierre d'Alain, sur le plateau des Mille Vaches. Ce zoom zoom test lui étant dédié, partons à la rencontre des pseudo-états les plus barrés. Et on commence là où tout voyage farfelu finalement devrait démarrer, en Azerbaïdjan. Nous sommes en 2017, Cyril rêve encore au poste de ministre de l'Identité Nationale que lui a fait miroiter François Fillon. À 5600 km de là, Igor Ashurbeyli, scientifique et homme d'affaires, annonce son projet de création d'une nation indépendante afin de maintenir la paix sur Terre et dans l'espace. Vous trouvez ça complètement ridicule? Vous prenez mon Igor pour un fou? Eh bien, en 2025, soit en 0008 dans le calendrier asgardien, le royaume d'Asgardia a réussi à nouer un partenariat avec l'UNESCO, afficher une population de plus d'un million d'habitants ou nous envoyer du rêve, tout simplement.
Les trois.
A et C.
A et C, parce que pour vous, ils ne peuvent pas quand même avoir
un million d'habitants. Un million, c'est chaud,
hein. Vraiment, ils envoient du rêve.
Ouais.
Mais en même temps, ils ont aussi un partenariat avec l'UNESCO. Et ils ont plus d'un million d'habitants. Bonne réponse de Manon Mariani, oui. Toutes ces réponses sont vraies, même si écouter du R. Kelly n'est pas forcément pertinent en 2025 et que le projet du royaume d'Asgardia stagne un peu à l'heure où on se parle, car le site officiel d'Asgard n'a publié aucune actualité depuis l'adoption des symboles nationaux du pays. C'était le 28 verso 0003 et donc... Ben le 28 janvier 2019, si vous n'étiez pas des buses en calcul mental. Oui. Mais le royaume compte plus d'un million de citoyens, d'autant plus surprenant qu'Asgardia est un projet de nation spatiale basé sur l'espace extra-atmosphérique, un projet de nation dans le métaverse ayant pour projet de renverser Facebook, ou une nation dotée d'un calendrier de 13 mois correspondant à l'ordre des signes du zodiaque sur le plan écliptique du soleil.
A,
B et C.
Non, ah, moi,
j'ai l'impression que vous répondez un peu au hasard, hein, à part notre invité, évidemment, Anastasia, qui réfléchit avant de répondre. B et C, non, voilà, personne n'a répondu. C'était les réponses A et C.
A.
Alors, je sais, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, comme la story où Kourad descend un escalier difficilement. Bref, on pourrait se dire qu'Igor Ashurbeyli, père fondateur d'Asgardia, n'a pas toutes les lumières allumées. Eh bien, sachez qu'on parle quand même du fondateur du Centre international de recherche aérospatiale de Vienne et qu'il a été distingué par l'UNESCO pour ses contributions au développement des nanosciences et des nanotechnologies. C'est quand même une autre limonade que Raël, qu'on embrasse, c'est un ami de Ghislain. Et maintenant, comme dirait Pierre Kourad, une fois bouclé son ultime petit carnet de la semaine, let's go west. Et plus précisément à Dayton, petit patelin du Nevada, où à l'époque où il officiait au FBI, Cyril avait un jour arrêté celui qu'on surnommait The Kinky Postman, un vieux monsieur qui avait la fâcheuse habitude d'honorer des boîtes aux lettres du coin. Une affaire rondement menée qui avait valu à Cyril une citation au tableau d'honneur du FBI, et pour une fois, c'était pas pour avoir changé le tonnerre de l'imprimante. C'est à Dayton qu'a été fondée la République de Molossia en 1977 par Kevin Bow, qui la qualifie lui-même de République bananière dictatoriale. République méconnue sur l'échiquier international, alors que c'est sur ces terres qu'a été signée l'accord de paix entre les États-Unis et le Vietnam. C'est sur ces terres... Pardon, elle a été en guerre contre la RDA.
Je comprends rien.
C'est l'option B.
Je
suis juste trompé d'un mot. Vous pouvez suivre comme intellectuellement.
La A est encore
bonne. Oui, la A est tout à fait bonne, bien sûr.
Vous pouvez suivre.
Soit c'est sur ces terres qu'a été signé l'accord de paix entre les États-Unis et le Vietnam, voilà. Soit elle a été en guerre contre la RDA,
d'accord.
Soit Donald Trump s'y est rendu en visite officielle.
C'est
A.
Peut-être une autre réponse.
B. ABC.
ABC. Non, c'est fini, c'est trop tard. C'était uniquement la réponse B. Comme Cyril, Kevin n'a rien contre les boches. En revanche, les communistes, ils détestent ça. C'est pour ça qu'il a fondé la République de Molossia, qui est toujours officiellement, à l'heure actuelle, en guerre contre la RDA, alors même que la RDA n'existe plus. Peu importe, il faut être prêt. C'est pourquoi Kevin a financé une armée qui compte 45 hommes. Plus d'infos insolites à retrouver sur le site officiel de la République, dont la guerre éclair contre le Moustachistan, qui a l'air aussi d'être une sacrée tranche d'histoire. Connaissez.
C'est vrai que
c'est mais je vais vous dire un truc moi-même.
En régie, ils sont perdus. Et,
ça s'entend.
Attendez, vous connaissez l'Amérique, mais connaissez-vous l'Empire aéricain? Fondé en 1987, l'Empire aéricain revendique sa souveraineté sur quoi? Une maison à Montréal? Une colonie sur Mars? Ou l'hémisphère nord de Pluton, le Soleil et une planète imaginaire intitulée Verden? Là, je vous donne. Là, Manon, tentez votre strike.
ABC,
oui, il n'y a pas de ABC. Mais c'est une bonne réponse. Une fois de plus, quitte à inventer un État, autant y aller à fond. Hein. A, B et C. Là encore, le visionnaire à l'origine du projet est plutôt bien coté sur LinkedIn, puisque Eric Liss, originaire de Montréal, est titulaire d'un doctorat de médecine et publie dans le Journal of Psychiatry et Neuroscience. Son empire aéricain semble néanmoins, comme le Zoom Zoom Zinc, voué à l'autodestruction. En effet, je cite les statuts constitutionnels de cet État, l'empire aéricain n'existe que pour faciliter l'évolution d'une société dans laquelle l'empire lui-même ne sera plus nécessaire. C'est beau comme du courage après 12 chupitos.
Plus c'est gros, plus ça passe.
Et pour finir, partons pour l'île de la Rose. Un pays.
Je vous dis, il n'y a pas assez de questions.
Un pays qui a fait l'objet d'un film Netflix en 2020. Une nation grande comme une plateforme artificielle de 400 mètres carrés conçue en 1968 en pleine mer Adriatique au large de l'Italie, autoproclamée indépendante par son concepteur Giorgio Rosa, qui aurait installé un restaurant, une boîte de nuit, un magasin de souvenirs et même un bureau de poste. J'aime tous ces détails et j'embrasse mon auteur Gérald Darnaud qui vraiment a le goût, le souci du détail important. Une belle idée qui n'aura duré que 55 jours après que les autorités italiennes ont décidé de quoi? De bombarder l'île pour la détruire, parce que les Italiens n'aiment pas trop ça, les network states, hein. Lâcher des rats dessus pour forcer Giorgio à évacuer ou l'annexer pour en faire une station météo.
B.
Hilarant.
B.
C.
À ce hilarant ironique, je vous enlève 3 points. Vous me répondez
B,
quoi?
Les rats.
Non, c'est une mauvaise réponse.
Ah, c'est, ouais, je pense.
C, bah, j'ai dit C.
Mais oui, mais non. Vous avez plus de points. Donc.
Mais en Italie, je dis, ils n'aiment plus pas ça, les rats. Bien sûr. Oui, Cyril a beau dire que depuis Mussolini, l'Italie n'est plus tenue. Preuve que quand même, ça rigole pas trop. Le mai 68 italien, c'est pas la même limonade que chez nous. Ça chassait les hippies à coups de bombe dans la gueule. Ce qui mit donc un terme à l'utopique nation de ce sacré Giorgio. Victoire absolument triomphale de Manon. Je dirais une victoire par défaut, puisque personne n'a eu de bonnes réponses.
Personne n'a rien compris au quiz aussi.
Écoutez,
moi je vais le réécouter ce soir. Il semble bien.
Exactement. Je dirais que c'est un quiz qui gagne à être réécouté. Voilà. Peut-être en ralentissant. Vous savez, en ralentissant.
Oui, oui. Je vais rejouer.
Vitesse 0,5.
Merci,
je pense.
Gérald, en tout cas.
Vous n'êtes plus satisfait de la France et vous avez passé la soirée d'hier à soupirer à chaque phrase d'Emmanuel Macron. Sortez-vous les mains des poches, je reste poli, et fondez votre propre État. On zoome sur de nouvelles formes d'État cet après-midi dans Zoom Zoom, les États réseaux ou Network States. La journaliste Nastasia Adjadji a étudié ce phénomène. Quel est, Nastasia, le but profond de ces États? Remplacer les États traditionnels à terme ou proposer une alternative en plus à ces États, une couche supplémentaire? Et si oui, pourquoi faire?
Eh bien, réponse B, c'est une couche en plus, une couche supplémentaire.
Bonne réponse.
Oui, voilà, bonne réponse. En gros, l'idée, c'est une forme de séparatisme à viser sécessionniste, mais l'idée, c'est déjà de se séparer, s'extraire et faire concurrence aux États. Parce que ces gens-là sont convaincus que le mécanisme de la concurrence, hein, qu'ils vénèrent, puisque ce sont des libertariens, permet de produire, en tout cas, de concurrencer les États et donc de les forcer à s'aligner sur leurs standards et à, du coup, transformer leur propre politique. Donc l'idée, c'est véritablement concurrencer les États. D'ailleurs, Peter Thiel avait déclaré en 2009, si on veut être plus libre, on doit multiplier le nombre de pays au nom de cette vertu de la concurrence qui serait que, en fait, si on vous propose des alternatives qui sont plus efficaces, il y aura un incentive, une incitation pour les gens à acheter leur citoyenneté là, à quitter potentiellement leur pays, à ne plus payer les impôts. Du coup, on soustrait à l'État traditionnel, la recette fiscale, qui est son sang, en quelque sorte.
S'il n'y a plus d'impôts qui construit les routes. Enfin, je dirais à un moment, il y a quand même les biens publics. La question des biens publics, elle
absolument. Non, mais ces gens-là considèrent que les gens viendraient chez eux, ce qui retirait des recettes fiscales aux États précédents. Mais ce qu'ils omettent, en quelque sorte, c'est que, généralement, dans ces projets sécessionnistes ou séparatistes, on ne redonne jamais son passeport d'origine. Ces gens-là qui font de la sécession en haute mer, ils ont créé pendant 24 heures leur petite utopie, un seastead au milieu de l'océan. En revanche, ils n'ont jamais rendu leur passeport américain.
Ouais.
ils peuvent à tout moment revenir en arrière, une fois qu'ils se sont fait bombarder, par exemple.
Il n'y aura pas une guerre d'égo, vous pensez, avec ces milliardaires qui vont se retrouver sur un petit lopin de terre une guerre des voisins, Musk, Bezos, ça va être très drôle. Ça,
absolument. Enfin, de toute façon, la gouvernance, le pouvoir, l'administration d'une société, ils n'y pensent pas vraiment. Ils disent que c'est la blockchain qui va le faire. Okay. Ou l'IA, d'ailleurs. Voilà.
Ah, ils vont s'en remettre à l'IA.
À l'IA, à la blockchain, à toutes ces technologies qui sont des véritables fétiches pour eux et qui pensent plus efficaces que la délibération. Parce qu'en fait aussi pour eux, la démocratie, c'est le Windows 95 de la gouvernance politique. C'est vraiment périmé, c'est obsolète, ça ne fonctionne pas. Il faut plus que le mettre à jour, il faut carrément le mettre à la poubelle. C'est un programme informatique obsolète.
Et en fait, l'idée, c'est de créer un laboratoire pour, quelque part, montrer aux autres nations, aux débiles qui sont toujours à la démocratie, à quel point leur système est vertueux.
Absolument. Donc, mettre en concurrence, et en parallèle, il y a deux systèmes. Donc, il y a l'exit, d'une part, donc c'est une espèce de sécession, et il y a ce que Balaji Srinivasan, dont il était question tout à l'heure, appelle le voice, c'est-à-dire de l'intérieur, essayer d'affaiblir les structures de l'État. Donc, ça va être des gens de la tech qui, à San Francisco, vont harceler les élus démocrates d'email et vont essayer de grignoter comme ça le système municipal.
Ça, c'est aujourd'hui.
Ça, c'est aujourd'hui. Ça va être Musk qui installe sa ville entreprise dédiée à ses entreprises au Texas. Tous ces mécanismes-là relèvent de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir de la micro-fragmentation de l'intérieur. Et c'est en parallèle de l'exit qui est véritablement le network state et les concepts qui gravitent autour.
Nastasia, vivement votre livre, qu'on aille plus loin dans cette réflexion. Il sort bientôt ?
Et je précise que c'est avec mon confrère Olivier Tesquet et qui sort.
Olivier Tesquet. On connaît bien ici, évidemment qu'on a reçu.
19 septembre.
Vous écoutez. Qu'est-ce qu'il dit ?
19 septembre.
Ah, la sortie, le 19 septembre, très bien. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Mon Dieu, mon Dieu. Manon, la personne à suivre.
Je vous présente Peter Thiel. Ah. Justement, il a 57 ans, il est américano-allemand et c'est un milliardaire très influent de la Silicon Valley. Son premier fait d'armes, c'est qu'il a cofondé PayPal en 1998.
PayPal.
Puis il a été le premier investisseur externe majeur de Facebook en 2004, où il a siégé au conseil d'administration pendant plus de 20 ans. Il a ensuite fondé Palantir Technologies, une entreprise spécialisée dans l'analyse de données pour les gouvernements et agences de renseignement. Plus qu'un simple homme d'affaires, Thiel est aujourd'hui une figure de l'ultra-droite américaine revendiquée libertarien, et ça ne date pas d'hier parce que Peter Thiel a toujours cultivé une méfiance envers le gouvernement fédéral américain. C'est un ancien étudiant à Stanford où il fonde un journal dès les années 90, le Stanford Review. Son credo est simple, l'État freine l'innovation, la régulation nuit à la liberté individuelle et les structures centralisées sont des carcans à abattre. Après ses premiers succès financiers, il commence donc à investir dans des startups en accord avec sa vision libertarienne. Il mise par exemple sur le concept du seasteading, vous l'avez parlé tout à l'heure, qui vise à créer des communautés autonomes sur l'océan, échappant aux régulations étatiques. Il finance aussi des travaux scientifiques pour prolonger l'espérance de vie jusqu'à l'infini. Et dernièrement, il a aussi voulu construire un laboratoire de test au Groenland pour préparer la colonisation sur Mars. Rien que ça. Peter Thiel a également commencé à s'intéresser au Bitcoin dès les années 2010, bien avant que la majorité du monde de la finance ne les prenne au sérieux. Il y a investi plusieurs millions de dollars. Et puis évidemment, en 2016, il a été l'une des premières personnalités de la Silicon Valley à soutenir ouvertement Donald Trump et à financer une partie de sa campagne. C'est une vraie bascule à droite pour ce milieu qui a toujours été plutôt démocrate. Et pour Trump, c'est évidemment un soutien de taille, d'autant plus que Peter Thiel est ouvertement homosexuel. C'est rare dans les milieux conservateurs. Peter Thiel est d'ailleurs un proche du vice-président J.D. Vance. Il faut le noter, ils se sont rencontrés il y a 15 ans et ça serait grâce à Peter Thiel que Vance est à la Maison Blanche aujourd'hui. Désormais, il œuvre dans l'ombre, toujours fidèle à sa discrétion légendaire.
Dans l'ombre, mais dans la lumière. Grâce à vous, Manon.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Avec son nouveau compte Pierre Courade Sport, où on le voit tour à tour pédaler le long d'une départementale en mini-short Adidas rouge, muscler son coude au bar avec des amis drag queen, ou encore tenter de descendre en escalier avec dignité après une nuit visiblement mouvementée, le compte Hugo Clément Sport n'a qu'à bien se tenir. Pierre, chaque après-midi, vous prenez la peine d'enfiler un pantalon pour venir nous résumer.
Pas tout le temps.
Merci.
Pour venir nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et aujourd'hui, on est parti à la découverte des Network States, les États réseaux
Bezos, la dernière folie des milliardaires de la Silicon Valley qui veulent faire sécession des structures traditionnelles de la société. Pour nous en parler, l'économiste Nastasia Adjadji nous a décrit un véritable phénomène qui cherche à se débarrasser de toute forme d'État pour en créer de nouveaux faits sur mesure pour les grands patrons libertariens de la tech fascinés par la science-fiction. Il s'appuie pour cela sur les membres des réseaux sociaux qui comptent plus d'adhérents que la plupart des États traditionnels. Les citoyens sont des clients qui payent pour obtenir leur nationalité. Pas de service public, là encore, on paye pour ce dont on a besoin, l'école, la santé. Évidemment, dérégulation totale du marché, le moins d'impôts possible, le paradis pour Alain Madelin, le disciple de Cyril Lacarrière.
Un paradis. Le disciple. Carrément, vous êtes plus vieux qu'Alain Madelin.
Absolument. Un paradis qui n'est pas uniquement dans le cloud, puisque les network states veulent désormais investir la terre ferme. Notre invité nous a parlé de l'expérience de Prospera, un territoire séparatiste libertarien situé au Honduras. Enfin, un État réseau, c'est l'anti-État-nation. Pas de peuple, mais une communauté de personnes qui partagent les mêmes idées, de droite réactionnaire généralement, et qui se retrouvent autour d'un même projet, le tout dirigé par un board comme une entreprise, avec à sa tête un PDG, et l'IA pour les aider, une organisation qui peut mener au despotisme. L'argent roi n'est pas l'alpha et l'oméga de la prospérité et de la démocratie.
Wow, pas d'AVC aujourd'hui. La chronique a été délivrée, mais alors vraiment magnifiquement. Hein, une syntaxe parfaite. Très très bien, Pierre.
Merci, merci. Ah, bravo. C'est un peu long.
Lui, mais vous n'êtes jamais content et vous trouvez tout trop long.
Test, en tout cas.
Mais pas quand il est présenté par vous. On se souvient qu'on a gagné les 7-8 minutes.
Et boum.
Lui, s'il crée un jour entre 2, 8, 6 son propre network state, nul doute que chacun d'entre nous se précipitera pour l'y rejoindre. Harold Barber, bonjour.
Je connais un état réseau, moi, qui réunit des gens selon leur courant de pensée. Ça s'appelle le Hellfest. Ça ne dure qu'une petite semaine, mais tu y vis une sensation d'éternité. Alors, en revanche, on ne cherche pas du tout à augmenter notre espérance de vie. Nous, on est plutôt à la réduire, à coups d'excès en tout genre et de Wall of Death. Mais on crée la vie, parfois, en forniquant à tout va derrière buissons et crash barrières. Imaginez, les amis, imaginez une carte du monde avec des pays sans couleur de peau, sans religion, uniquement des courants de pensée. Les rastas blancs, les milliardaires, les hémétophiles chroniques. Bon, il y aura toujours des conflits. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien insister à la guerre entre les rastas blancs et les hémétophiles. Les hémétophiles arrivent, tous à vos bolas enflammés. Oh, les rastas blancs, vite, sortez vos gourdes de l'écaillier. Ouais. Le pays des beaufs, ça sera à visiter à coup sûr, ça, le pays des beaufs. Que des voitures sans permis sur les routes. On se dit pas bonjour en se serrant la main, mais en se faisant un chabit. Les applaudissements sont remplacés par des pets de dessous de bras. Incroyable! Le pays des beaufs sera le nouveau Vegas, ce qui se passe chez les beaufs. Bah évidemment, reste chez les beaufs. Personne n'a envie d'importer le pet de dessous de bras dans son pays, tu vois. Ce qui est certain, c'est que c'est probablement pas dans le pays des beaufs que l'on va trouver la solution pour tromper la mort. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit dans les network states la plupart du temps, trouver une solution contre le vieillissement et tromper la mort. Alors vouloir allonger son espérance de vie et pourquoi pas ne pas mourir, c'est vraiment la chose la plus égocentrique à faire. Ça devrait être une décision collégiale. On n'a pas le droit d'arriver face aux autres en disant « Eh, vous savez quoi? J'estime que je suis tellement incroyable que je vais vous offrir 10 ans de plus que moi !» Non mais non, mais non, quelle prétention. Non, non, on vote pour qui peut éventuellement rester plus longtemps ou pas. Ça me semble bien. Personnellement, je préfère mourir à 75 ans en ayant vécu des choses incroyables dans ma vie que de traîner ma misère jusqu'à 112 ans. Parce que les 5 ou 10 ans d'espérance de vie que tu récupères, on remonte pas le temps pour te les mettre quand t'as 25 ou 30 ans. C'est une sorte de rustine qu'on te colle en fin de parcours. T'es là, à 90 ans, tout fripé, on dirait un t-shirt mouillé sur un tankerville. Tous les aliments que tu dois consommer doivent être liquides. Tu risques ta vie au moindre grain de semoule qui passe dans ta paille. Tout ça pour pouvoir dire dans un effort surhumain avec des lunettes à oxygène dans les trous de nez « Je suis en vie !» tu dis ça à personne en plus, car tous les gens que tu connais sont déjà morts. Ce présent n'attend qu'une chose, c'est que tu libères ta place dans l'EHPAD. On n'en retire pas une gloire immense, je pense. Le jour de tes 115 ans, le pigiste amateur du journal local vient te prendre en photo avec le même entrain que si tu l'envoyais photographier une algue échouée sur un rocher. Le maire de la ville te file une médaille en se trompant sur ton prénom. Félicitations Marion. Manon, elle s'appelle Manon. Oh, c'est pareil. Madame Mariani n'aime pas qu'on se trompe sur son prénom. Elle a son petit caractère. Ouais, bah remontez-lui ses bas de contention et donnez-lui un petit tranxène, ça va la calmer. Elle a mangé de la soupe ce matin, non? Elle dégage une forte odeur de soupe, Madame Mariani, ce matin. On retourne ton fauteuil vers le mur car on veut pas s'infliger le spectacle de ta présence pendant qu'on mange le gâteau. Genre, qui peut avoir envie de ça, quoi? L'enfer, l'enfer. C'est The Last of Us qui devient réalité. Au lieu d'être entouré de zombies champignons, c'est que des vieux cons qui ne meurent jamais. Toujours là, avec leurs blousons en velours et leurs mocassins à glands, à commenter sur Facebook pour l'éternité. Vous êtes tous nuls sur France Inter. La vie doit être éphémère, c'est ce qui en fait quelque chose de magnifique. Imaginez l'absurdité des messages de prévention du ministère de la Santé si d'un seul coup, on pouvait vaincre la mort.
Bonjour, moi c'est Robert. Je voulais vous dire que j'ai fumé 2 paquets de cigarettes par jour pendant 40 ans. Et ben je regrette carrément pas. Aujourd'hui, je fume tout ce que je veux. J'ai même remplacé mon cathéter par une gitane pour déconner. Je peux vous dire que ça a surpris mon urologue quand j'ai baissé mon froc. Vive le cancer.
Non, comme dirait Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat. C'est difficile de choisir, les autres mettent toujours leur nez dedans et t'as rarement ce que tu veux au final. Un chocolat c'est suffisant.
Merci beaucoup Harold Barbet. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et on peut vous retrouver tous les mercredis soir en spectacle au théâtre Le Métropole à Paris, à Lille le 30 mai et vous serez sur scène pour l'ouverture du Hellfest Off le 17 juin. Incroyable. Évidemment. Merci Nastasia Djaji de nous avoir éclairé sur ce concept passionnant de Network State. Désormais dans les dîners on pourra frimer en posant nonchalamment à notre voisin la question et toi au fait t'en penses quoi des états réseau, on verra si le type écoute Zoom Zoom Zen ce jour là merci et votre livre je le rappelle c'est le 19 septembre
qui sort avec Olivier Tesquet
avec formidable Olivier Tesquet pour en savoir plus sur la Network State et aussi le thème du livre c'est
eh bien c'est ce mouvement d'accélération technofasciste ça s'appelle Apocalypse Nerd
Apocalypse Nerd oh mais ça c'est un titre qui claque
Zoom Zoom Zen